Mesdames et messieurs, vous êtes accueillis par Danielle Pourtaud, adjointe au maire de Paris chargée des universités, représentant le maire de Paris.
Bonsoir, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères, Monsieur le Professeur, Mesdames et Messieurs et chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans ces salons de l'Hôtel de Ville. Bertrand Delanoë aurait bien sûr souhaité être des nôtres aujourd'hui, mais son emploi du temps chargé, surtout en ces temps pré-olympiques, l'en a malheureusement empêché. En son nom et au nom de tous les Parisiens, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir et de vous témoigner ainsi de notre intérêt pour vos travaux et de notre soutien à cette prestigieuse institution qu'est la conférence Marc Bloch. Je sais que vous êtes ici pour entendre les travaux de M. John Horn, que je salue. Aussi tâcherai-je d'être brève et de ne pas trop décevoir votre impatience légitime. Brièvement donc, je voudrais vous dire que la ville de Paris est heureuse de soutenir une manifestation aussi prestigieuse qui contribue au dynamisme et à l'excellence des échanges universitaires dans notre capitale. En accueillant chaque année à Paris, depuis 1979, des conférenciers de renom, mais aussi des auditeurs venus de différents pays, les conférences Marc Bloch contribuent en effet au rayonnement international de Paris. Je tiens d'ailleurs à saluer les ambassadeurs qui nous rejoignent, Madame Magdalena Tovornik, ambassadrice de Slovénie, Monsieur Lévi Sandri, consul général d'Italie, Monsieur Sadani, attaché culturel de l'ambassade d'Algérie. Leur présence ici ce soir prouve l'importance de l'événement qui nous réunit. Faire en sorte que Paris reste un pôle universitaire mondial est une ambition que nous partageons en effet et à laquelle nous essayons également de contribuer. Aussi ne pouvons-nous que soutenir toutes les initiatives qui, comme celle de ce soir, vont en ce sens. Donner à la communauté universitaire parisienne les moyens de rivaliser avec ses homologues françaises et étrangères, attirer dans nos universités, nos grandes écoles et nos centres de recherche les talents du monde entier, aider les universitaires parisiens à s'ouvrir davantage au monde, tels sont en effet les objectifs que nous poursuivons, à la fois en soutenant des initiatives émanant d'établissements, mais également en tâchant d'améliorer les conditions de travail de l'enseignement supérieur parisien. C'est aussi pour favoriser les échanges internationaux et renforcer le rayonnement de Paris que la municipalité met en place des structures et des modalités d'accueil destinées aux chercheurs comme aux étudiants étrangers, structures encore trop insuffisantes, nous le savons tous, dans notre capitale. Pour toutes ces raisons, je me félicite de votre présence ici ce soir et je tiens à remercier très chaleureusement Daniel Hervieux-Léger ainsi que toute l'équipe de l'EHESS qui ont rendu cet événement possible. Avant de vous passer la parole, cher Daniel, je voudrais ajouter un mot sur le fait que cette conférence ait lieu cette année à l'Hôtel de Ville. Ceux qui ont assisté aux précédentes éditions de la conférence Marc Bloch le savent, c'est traditionnellement à la Sorbonne, dans le prestigieux Grand Amphi, qu'est prononcée cette conférence. Je tiens donc à vous rassurer, ce déménagement à l'Hôtel de Ville de Paris n'est ni un déclassement, ni une tentative d'OPA de la ville de Paris sur un événement prestigieux, ni le signe du déclin de la Sorbonne. Au contraire, mais plus de 100 ans après sa construction, le Grand Amphi était malheureusement dans un état tel qu'il posait des problèmes, notamment de sécurité. La ville de Paris, qui, vous ne le savez peut-être pas, en est propriétaire, a donc décidé d'y engager des travaux importants de modernisation et de mise en sécurité, ainsi d'ailleurs que dans la chapelle et dans la grande bibliothèque de la Sorbonne. Ceux-ci dureront au moins jusqu'en janvier prochain et obligent donc d'ici là, à déménager certaines des activités. Il était donc naturel que nous vous recevions ici ce soir, mais c'est néanmoins un grand honneur et un grand plaisir. Voilà, je voudrais donc vous souhaiter de passer une très agréable soirée. Je donne la parole à Daniel Hervieux-Léger avant que John Horn ne vous parle des soldats français de la Grande Guerre. C'est bien cela, monsieur le professeur. Et vous aurez beaucoup plus de chance que moi, puisque malheureusement, je ne pourrai pas écouter la conférence. Et donc, je vous prie d'avance de bien vouloir m'en excuser.
Madame le maire, chers collègues, chers amis, je suis heureuse à mon tour de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire, au nom de l'École des hautes études en sciences sociales, le plaisir que nous avons de vous accueillir pour cette 21e conférence Marc Bloch. L'événement, en effet, bouleverse cette année nos habitudes. Nous nous réunissons d'ordinaire dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, rendu indisponible par des travaux de rénovation dont nous nous réjouissons. Et c'est l'Hôtel de Ville de Paris qui nous offre donc aujourd'hui une hospitalité généreuse. Je voudrais dire avant toute chose à Madame Pourteau la gratitude que nous lui avons d'être accueillie dans ce lieu prestigieux et les remerciements que nous adressons à Bertrand Delanoë, maire de Paris, qu'elle représente parmi nous ce soir. Nous retrouver dans ce lieu où se donne à voir de façon privilégiée l'unité de la République et de la nation fait particulièrement sens quand il s'agit d'accueillir un des spécialistes les plus reconnus de l'histoire de la guerre de 14, membre du comité directeur de l'historial de la Grande Guerre de Péronne, notre collègue et ami John Horn, qui nous fait l'honneur et l'amitié de s'adresser à nous ce soir. Il me revient, cher John, de vous présenter à tous ceux qui se sont réunis pour vous entendre, mais surtout de vous dire, en leur nom et au mien, nos remerciements pour avoir accepté si spontanément notre invitation. Vous nous venez d'Irlande, où vous êtes professeur d'histoire européenne contemporaine à Trinity College à Dublin, mais vous avez été élevé en Australie et en Grande-Bretagne. Après vos études à l'Université d'Oxford et votre doctorat en histoire contemporaine à l'Université de Sussex, vous avez obtenu votre premier poste à Trinity College en 1977, où vous êtes resté jusqu'à ce jour. Premier directeur du Centre d'études européennes de 1992 à 1994, vous avez été chef du département d'histoire moderne et contemporaine jusqu'en 2003 et vous avez été élu en 2005 à la Royal Irish Academy. Votre œuvre d'historien est celle d'un chercheur attentif aux propositions formulées dans un spectre large des sciences sociales et vous y êtes devenu du coup un interlocuteur régulier de nombreux historiens dans l'ensemble de l'Europe et aux États-Unis. Cette surface d'intervention particulièrement ample tient aussi à la façon dont vous nouez ensemble enquête sociale, réflexion politique et critique culturelle. Parmi les liens nombreux que vous entretenez avec des institutions étrangères, avec l'Institute for Advanced Studies de Princeton, avec le Center for Historical Research de Rutgers University, il y a ceux, intellectuels et amicaux, qui vous lient de longue date à l'École des hautes études en sciences sociales. Récemment encore, nous avons fait ensemble l'expérience des grandeurs et aussi des pesanteurs, il faut le dire, qui s'attachent à la construction d'un espace européen de la recherche, dont vous témoignez au plus haut point qu'il est désormais devenu le cadre naturel de nos entreprises scientifiques. Vous êtes un spécialiste de l'histoire française et européenne du XXe siècle et l'auteur en particulier, parmi une abondante production, d'une remarquable histoire comparée du mouvement ouvrier pendant la Grande Guerre en France et en Angleterre, paru en 1991. Vous avez dirigé un ouvrage sur De Gaulle et la France du XXe siècle, publié en 1994. Plus récemment, vous vous êtes attaché, dans un ouvrage paru en 1997, à l'étude des processus de mobilisation et de démobilisation culturelle, une étude qui éclaire d'un jour véritablement neuf l'entrée et la sortie de guerre des sociétés au XXe siècle. Mais c'est à votre dernier livre paru, German Atrocities, 1914, The History of Dignol, que je voudrais m'arrêter un instant. Non pas seulement parce que ce livre a été couronné par le prestigieux prix Frankel décerné par l'Institut d'histoire contemporaine de Londres en 2000, pas seulement non plus parce que sa traduction en français va être publiée cette année, mais parce que ce livre reprend pour la première fois le programme proposé par Marc Bloch dans son célèbre article de 1921 dans la Revue de Synthèse, article dans lequel il en appelait à une étude des fausses nouvelles de la guerre, à une étude des rumeurs qui façonnent, pour leur part, l'imaginaire collectif des guerres contemporaines. Avec Alan Kramer, avec qui vous co-signez cet ouvrage, vous étudiez à la fois les atrocités réellement commises par les troupes allemandes dans les trois premières semaines de la guerre sur les populations civiles, françaises et surtout belges, et le poids symbolique et politique de ces 6500 morts au regard d'une guerre qui en fit 10 millions. En étudiant la façon dont les horreurs fantasmées se sont greffées sur les faits réellement commis et en ont recomposé la mémoire, vous ouvrez une réflexion très forte sur le statut de la vérité en histoire, l'administration de la preuve et les usages négationnistes toujours possibles du difficile métier d'historien. Cette réflexion exigeante fait résonner des interrogations sur les bruits de la guerre, auxquels l'actualité la plus présente, répercutée par les médias jusqu'aux extrémités de la planète, donne un écho particulier. Ce soir, c'est un retour sur l'expérience des soldats français de la Grande Guerre que vous nous invitez. Invitation on ne peut plus opportune, en ces temps où les incertitudes de l'avenir et les peurs qui leur sont associées obscurcissent la conscience de l'immense victoire sur un passé saturé de guerre dont l'Europe, avec toutes ses faiblesses présentes, est avant tout porteuse. Recevons donc comme un signe que cette invitation nous soit adressée par un collègue venu d'Irlande, pays qui porte haut, en ces temps de doute, une puissante et communicative dynamique européenne. À ce titre aussi, mon cher John, votre présence honore l'Assemblée venue vous écouter ce soir et qui vous rend hommage.
Madame le maire, Madame la présidente, chers collègues, chers amis, je vous remercie de votre accueil et de cette présentation. Conscient des rapports entre l'École des hautes études en sciences sociales et Trinity College Dublin, rapport qui remonte à plus de 30 ans, conscient aussi des liens que j'ai noués avec l'école à titre personnel, je suis très sensible à l'honneur que vous me faites en m'invitant à prononcer cette conférence Marc Bloch. Les soldats de la Grande Guerre, parmi lesquels se comptait Marc Bloch, restent un grand sujet de notre histoire contemporaine européenne. En France, comme dans certains autres pays, notamment la Grande-Bretagne, le public leur prête un intérêt toujours grandissant. Ces visages, parfois étonnamment jeunes, que nous scrutons dans de vieilles photos, nous paraissent à la fois tout proches, les derniers vétérans sont à peine sortis des rangs des vivants, et très lointains, comme si leur expérience était aussi difficile à reconstituer que celle des soldats de la guerre de 30 ans. Nous déchiffrons ces correspondances et ces carnets et nous nous demandons comment ils ont ressenti cela, au nom de quoi ils ont tenu ou n'ont pas tenu et ce qu'ils en ont retenu. Mais les réponses restent énigmatiques car les combattants de la Grande Guerre ont initié le XXe siècle à un cycle de violence, tant idéologique que physique, qui est à peine résolu. Le monde change dans leur sillon. Conscients de cette transformation, les anciens combattants dominent pendant longtemps le récit de leur propre expérience. Les historiens s'y penchent plus tardivement, avec des sources nouvelles, sans que le flot de témoignages publiés s'estompe. En même temps, la gamme des interprétations s'élargit. plus on s'approche d'une étude quasi psychologique, plus les interprétations diffèrent, se confrontent. Victime d'une contrainte étatique et judiciaire ou participant dans une violence consentie à l'égard de l'ennemi. Motivé par une loyauté de groupe envers les camarades ou mobilisé par un sentiment d'appartenance nationale. Les hypothèses abondent sans forcément se contredire. Je n'ai aucune prétention de résoudre ces questions ce soir, même en me limitant aux 8 millions des soldats français. Je propose plutôt de changer l'objectif afin de réfléchir sur certains cadres d'analyse susceptibles, j'espère, d'illuminer le vécu de ces hommes. Il s'agit de l'expérience, de la mémoire et des rapports tissés entre elles par le langage. Ici, je pense à Marc Bloch, l'historien, qui a nourri de son expérience de soldat de la Grande Guerre toute une réflexion sur la subjectivité humaine qui infuse ses travaux de médiéviste. Pour l'historien, l'expérience est aussi importante que la mémoire, même si elle a reçu moins d'attention ces dernières années, la mémoire étant devenue un sujet de prédilection. Sans trop partir dans des élaborations théoriques, il faudrait identifier quelques-unes des complexités de l'expérience qui, naturellement, vont bien au-delà d'une réaction envers un événement extérieur, aussi implacable soit-il qu'un éclatement d'obus ou qu'une rafale de mitrailleuse. Faire une expérience présuppose une anticipation de l'avenir, même si elle est l'inverse de l'événement qui arrive. Faire une expérience exige aussi de la mémoire, car en dehors des cas de mort ou d'amnésie, le cerveau travaille tout de suite l'expérience par récollection, si bien que la mémoire fait vite partie de l'expérience. Ce qui se vit dans un présent fugace s'inscrit alors dans une structure temporelle. Et il y aurait lieu d'explorer cette temporalité, me semble-t-il, dans le cas des soldats de 14-18. L'expérience se formule aussi et se communique. Elle se formule au niveau de l'acteur par les sentiments qu'il éprouve et les explications qu'il s'en donne. Elle se communique par les récits qu'il en fait aux personnes avec qui il est en contact. Ainsi, la pensée et le langage sont indissociables de l'expérience une fois l'homme sorti de la première enfance. Bien sûr, tout n'est pas dit, même à soi-même. La narration est semée de silence et d'occultation. Dans le pire des cas, elle est bloquée par le mutisme. Mais avec le temps, et sous forme d'une mémoire distanciée, le langage récupère souvent ces aspects refoulés de l'expérience, tout en supprimant d'autres. Étudier des sources d'ordre personnel veut dire ausculter ces rapports entre expérience, narration et mémoire. En ce qui concerne les soldats français en 14-18, tant les sources orales manquent, pas de magnétophone à l'époque, tant les sources écrites abondent. La classe la plus âgée de la réserve de l'armée active, mobilisée en 1914, celle de 1896, a 6 ans en 1882 et fait sa scolarité à l'école Jules Ferry. Cette armée écrit sans cesse, des officiers les plus cultivés aux soldats, paysans et ouvriers qui s'expriment comme jamais auparavant. Il est vrai que les carnets et lettres qui sont édités pendant et suivant la guerre, viennent plutôt de combattants issus des classes moyennes et des élites. Mais en dehors du fait que les documents de ce type retrouvés et publiés plus récemment font une place importante aux simples soldats, l'armée sondait dans le courrier de la troupe, surtout à partir de 1916, afin de veiller sur le moral. Les rapports du contrôle postal, avec leurs extraits de lettres, offrent un énorme recueil de brins d'expérience narrés par les soldats à l'intention de leurs proches. Enfin, l'expérience s'inscrit aussi dans le cadre social et institutionnel dans lequel elle se déroule. Elle est donc affaire de valeurs collectives, de rôles sociaux et de fonctions institutionnelles. En retenant ces distinctions, je voudrais évoquer trois cadres de cette expérience. D'abord, la temporalité des soldats et surtout la tension entre la guerre future imaginée et celle rencontrée dans le présent. Ensuite, le rôle du langage et en particulier de la narration comme intermédiaire entre l'avenir et le présent, entre l'imaginaire et le réel. Enfin, et de façon plus sommaire, la mémoire distanciée qui se construit après la guerre. D'abord, le rapport entre la guerre imaginée et celle vécue. Dans quel état d'esprit et avec quelle anticipation les soldats sont-ils partis en août 14 et pendant les mois suivants? Sans réponse à cette question, il est difficile de mesurer l'impact subjectif de leur rencontre avec la guerre réelle, c'est-à-dire avec des conditions de bataille bien plus meurtrières que celles prévues. Car l'application de la technologie industrielle au combat, mitrailleuses, artillerie à haut explosif, avait créé une forme de guerre non seulement impersonnelle, dans laquelle on voyait rarement l'ennemi, mais aussi très mortelle. Par surcroît, elle favorisait la défensive une fois la guerre de mouvement terminée. Restaurer la puissance de l'offensive contre ces lignes de forteresse étendues que furent les tranchées se révéla bien difficile. Même en 1918, les avantages conférés sur l'offensive par les chars, les avions et une artillerie d'assaut n'expliquent qu'en partie la victoire alliée, qui fut due surtout aux effets cumulés d'une guerre d'usure. Mais en 1914, tout cela était dans l'avenir. Or, nous savons maintenant que les soldats ne partaient pas allègrement, dans un esprit de nationalisme revanchard, tel que le mythe l'a longtemps présenté, mais plutôt décidés à défendre la patrie contre ce que l'on voyait comme une agression injustifiée de la part de l'Allemagne. Les hommes, pour la plupart, n'étaient pas gays, remarqua Marc Bloch avant de rejoindre son régiment au début d'août 1914. Ils étaient résolus, ce qui vaut mieux. Cependant, autour du départ, s'esquisse cette culture de guerre de 1914 qui présente le conflit sous forme manichéenne, comme une lutte à l'outrance entre valeurs nationales opposées et pour la survie de la patrie. Par culture de guerre, j'entends certes les représentations du conflit et les valeurs que ces représentations affichaient, telles qu'elles étaient relayées par la presse, la politique ou l'Église, mais aussi telles qu'elles étaient appréhendées et exprimées par les soldats et les civils eux-mêmes. Dans le cas français, cette culture de guerre fut rendue très concrète en l'automne de 1914 par l'invasion et les brutalités visitées sur les civils belges et français, les atrocités allemandes. Les soldats était bien conscient de ces réalités. Il croisait des centaines de milliers de réfugiés et en refoulant les Allemands de la Marne, il retrouvait des civils brutalisés et des villages incendiés. Cette expérience de l'automne 1914 est couronnée du choc de la rencontre avec les armées allemandes. Une rencontre qui, avant la fin de l'année, résulte en 435 000 soldats français morts et prisonniers. 435 000, 26% des pertes de toute la guerre. Mais au lieu de décrocher la victoire décisive, cette rencontre s'enlise dans la guerre des tranchées. D'où une grille de référence dans le temps et dans l'espace qui définit les horizons existentiels du soldat français pour le reste du conflit. La patrie violée a été défendue et chaque nouvelle attaque de l'ennemi ainsi contrée représente une victoire partielle. Mais la victoire définitive se mesure par l'expulsion des Allemands des territoires occupés qui recoupent 10 départements avec des villes telles que Lille, Cambrai et Saint-Quentin. Il s'agit d'une guerre de libération nationale dont seul l'acte final pourrait libérer les soldats eux-mêmes. Cette temporalité se conjugue de la manière suivante. Le sursaut national de 1914 est le passé sur lequel l'effort de guerre est bâti et dont la mémoire s'installe à l'intérieur du conflit. 2 ans plus tard, Maurice Genevoix rappelle ses émotions de jeune lieutenant et celles des soldats en lisant l'ordre célèbre du général Joffre à la veille de la bataille de la Marne. Le moment n'est plus de regarder en arrière, attaquer, refouler l'ennemi. C'est cela. J'avais ressenti cela, et mes hommes, et nous tous, à qui on n'en avait rien dit. Nous avions ces paroles en nous. Ils étaient notre raison d'être et notre volonté. Sans savoir que de ces jours poignants dépendait le salut du pays, nous avions fait dans la joie tout le sacrifice. Donc Maurice Genevoix écrivant en 1916. Et en 1915, Marc Bloch, dans une lettre écrite au cas où il serait tué, déclare que ce mort pendant la retraite en 1914 était à plaindre, mais que lui serait mort sûr de la victoire. Le présent, par contraste, consiste dans la guerre des tranchées qui s'éternise. En fait, il se vit à 2 temps. Le premier consiste en une logique défensive, dont le but est précisément de limiter les pertes et de se protéger contre les violences de la guerre. Maîtriser cette guerre-là veut dire assurer sa survie quotidienne. Partie d'une impréparation totale et munie de matériel parfaitement insuffisant, les soldats français font l'apprentissage de ce que l'on pourrait appeler la vie ordinaire des tranchées. Il ne faudrait pas nier la dureté des conditions climatiques et sanitaires, ni minimiser la mort qui les guette en permanence. Mais les hommes s'installent, tant bien que mal, dans une vie qui se reproduit avec une mesure de régularité. Et ils en tirent même un certain orgueil. Avec l'accumulation d'armes toujours plus puissantes, avions, artillerie lourde, ou adaptées au combat des tranchées, grenades, obusiers, ils s'acquittent de leur première tâche, maintenir la défensive. L'impression que nous sommes chaque jour mieux armés, par conséquent chaque jour plus forts, est partagée par tous, résume le contrôle postal de la 3e armée dans l'Argonne en avril 1916. La vue des pièces dont notre armée dispose, des munitions accumulées, consolide cette impression. ainsi que l'activité que notre artillerie continue à déployer jour et nuit sur le front. Pourtant, à côté de cette logique défensive, s'impose un deuxième temps, celui de l'offensive, qui oblige à une intensification de la violence afin d'user l'ennemi et éventuellement de briser son front. Et parce que l'armée allemande reste sur la défensive à l'ouest en 1915, ce sont surtout les armées françaises qui attaquent, l'armée britannique ne venant que progressivement en force sur la scène, et chez qui, par conséquent, la guerre imaginée se heurte le plus brutalement à la défensive. Incapable de reconnaître cette réalité nouvelle, le haut commandement continue à jeter ses troupes dans des attaques partielles avant de lancer deux offensives générales, en Artois en mai et en Champagne et en Artois en septembre. Les gains furent minimes, les pertes écrasantes. Au moins 433 000 morts et prisonniers pour toute l'année, ou encore 26% du total de la guerre, c'est-à-dire des pertes plus élevées que celles de 1916, l'année de Verdun et la Somme. Pour les Français, 1915 est l'année du grand paroxysme dans la manière de faire la guerre. En ce sens, les soldats français font les frais des illusions de leurs propres généraux, Joffre en premier, par rapport à la doctrine de l'offensive. Et il n'est en rien surprenant si leur correspondance, telle qu'elle nous parvient de ce temps avant le contrôle postal, regorge d'expressions de choc et d'affolement devant la violence de cette guerre imprévue. Nous avons passé une semaine terrible, écrit le soldat Marcel Papillon à ses parents en avril 1915 de Bois-le-Prêtre, où se prolonge une offensive partielle. C'est honteux, affreux. C'est impossible de se faire une idée d'un pareil carnage. Jamais on ne pourra sortir d'un pareil enfer. Les morts couvrent le terrain, Boches et Français sont entassés les uns sur les autres dans la boue. Nous avons attaqué deux fois et gagné peu de terrain, qui a été en entier arrosé de sang. Enfin, il ne faut pas désespérer, on peut être blessé. Quant à la mort, si elle vient, ça sera une délivrance. Seulement, à leur manière, les soldats partagent les illusions des généraux. Ils sont pris eux aussi dans l'engrenage d'un avenir qui semble passer implacablement par la grande offensive libératrice. L'espoir que cette fois-ci on en finira, qu'enfin s'écrouleront les lignes allemandes, se renouvelle continuellement, alternant avec le noir désespoir par rapport à une percée impossible. Ce même Marcel Papillon, qui observe de loin en septembre 1915, les offensives jumelées en Champagne et en Artois, griffonne une carte à son frère, Lucien, qui y participe, pour faire « Ça barre fort vers toi en ce moment. C'est le grand coup, ça sera peut-être la fin. » Le lendemain, il note que « On nous a lu une sorte de proclamation adressée aux armées par le général en chef, nous faisant savoir que l'heure décisive était arrivée et qu'il fallait donner l'effort suprême. » Et Lucien, son frère, blessé et remarquant bien naturellement qu'il se trouvait mieux à l'hôpital que dans la bataille, raconte néanmoins à ses parents la réussite supposée de l'attaque. « Je te promets, quand tout cela crachait, que les Boches prenaient quelque chose pour leur rhume. Mon sac est resté dans les tranchées Boches qui sont à nous maintenant. » Cette grille expérientielle dans le temps et dans l'espace explique certains traits du vécu des soldats français en 1916. Selon les archives du contrôle postal, le moral des troupes qui font face à l'offensive massive de l'armée allemande à Verdun se montre assez résilient, malgré des conditions de bataille parfois pires que celles de 1915. Car même si la distinction tactique entre l'offensive et la défensive disparaît dans une campagne conçue du côté allemand en forme d'une lutte d'usure, les soldats français ont vite compris que pour eux, il s'agissait d'une bataille défensive. Bien sûr, ils souhaitent la rencontre décisive. Un rapport de mars 1916, au début de la bataille, signale le désir répandu pour un effort qui pourrait terminer la guerre. Déjà, le mot d'ordre « tenir et changer », écrit un soldat. Maintenant, c'est « agir ». Mais tenir suffit pour remporter une victoire défensive qui empêcherait un renouvellement de l'invasion allemande ou la défaite par l'usure. Ainsi se dégage des rapports du contrôle postal la fierté d'avoir résisté dans ce qui est déjà représenté comme une épopée nationale. Quant à Verdun, écrit un soldat, ils ne l'auront plus maintenant. Et un autre de dire, je sors de la fournaise et ce n'est pas rigolo, mais ils ont beau faire ces vaches de Bosch, ils ne prendront pas Verdun où on se fera plutôt tuer jusqu'au dernier. Reste pourtant la question de l'offensive qui seule peut apporter la libération définitive et dont l'espoir se reporte pendant l'été de 1916 sur l'attaque anglo-française sur la Somme et sur une guerre de coalition menée sur les fronts russes et italiens. Vous avez appris le succès des Anglais, des Italiens, ça vous donne du courage, écrit-on de Verdun en juillet. Et je vois bien que 1916, c'est la fin. Quand ces offensives dégénèrent à leur tour en une logique d'usure, avant de se fondre dans les pluies de l'automne, les soldats français se retrouvent devant cet avenir qui refuse de se muer en victoire totale. La Grande Guerre eut ce fond de messianisme qui vient du choc entre l'investissement des populations dans le conflit et l'impossibilité de remporter une victoire par la guerre telle qu'elle avait été imaginée. Comme tout messianisme, il se joue au temps futur, un futur qui se voit investi de toutes les angoisses et de tous les espoirs. En ce sens, il est parfaitement logique que Henri Barbusse, socialiste et soldat volontaire, qui a fait l'expérience de la deuxième offensive de l'Artois en septembre 1915, publie, avec le succès que l'on sait, son roman à témoin « Le feu » en décembre 1916, quand la bataille de la Somme a touché à sa fin. Son sujet n'est rien d'autre que la suspension d'un groupe de soldats entre le présent qu'ils habitent en essayant de survivre et un avenir illisible, mais que Barbusse dépeint dans son dernier chapitre « L'aube » aux lueurs d'une apocalypse rédemptrice. Les ventes du livre, le prix Goncourt et les réactions des lecteurs, soldats comme civils, montrent qu'il avait saisi un aspect central de l'expérience de la guerre. Comment vit-on à l'intérieur de cet univers temporel? Dans des situations variées, certes, et selon les cadres sociaux et institutionnels auxquels j'ai fait référence et qui ont fait l'objet de nombreuses études. Situations variées, un bon secteur par rapport à un secteur où ça barde. La vie ordinaire des tranchées contre les grandes batailles. Des armes différentes, des artilleurs en particulier, ayant une certaine distance par rapport au sort des fantassins. Divers cadres institutionnels et sociaux aussi. Une justice militaire qui varie dans ses exactions, étant plus sévère et surtout plus arbitraire en 1914-15, quand le haut commandement se heurte à une forme de guerre qu'il ne comprend pas. Mais aussi des formes de reconnaissance militaire, les médailles, les citations, qui sont censées entretenir des notions de devoir. et au-dessus de tout, les rapports avec l'intérieur, qu'ils soient négatifs, la haine de l'embusqué, du profiteur de guerre, ou positifs, l'intimité conjugale et familiale, et le souvenir de la vie antérieure dans le civil. Tout cela structure l'expérience des soldats. Mais cette expérience se formule aussi et surtout se communique. Ce qui m'emmène à mon deuxième cadre d'analyse, qui est le rôle du langage par rapport à la violence de la guerre et la difficulté qu'éprouvent les soldats de concilier cette violence avec une vision du conflit comme possédant une certaine rationalité, c'est-à-dire capable d'être gagné et comme quelque chose dont ils pourraient espérer sortir vivant. Bien sûr, les narrations que font les soldats sont multiples, comme les cadres sociaux dans lesquels ils les font. On ne dit pas à ses camarades la même chose qu'on écrit à ses proches ou qu'on leur dit quand on a enfin une permission. Pourtant, rien ne laisse supposer que certaines de ces formes de narration soient plus vraies que les autres. On peut très bien écrire des choses à ses proches qu'on ne dit pas, du moins de la même manière, à d'autres soldats. Par exemple, une attaque que l'on a faite ou subie. De même, on pourrait s'auto-censurer dans une lettre sur certains thèmes, par exemple sexuels, sur lesquels on ne se retiendrait pas sur le front. Chaque stratégie de narration a sa cohérence et sa valeur. Mais parce qu'il reste peu de traces des récits oraux faits par les soldats entre eux ou en permission, c'est surtout la correspondance qui nous renseigne sur le rôle de la narrativité utilisée par les soldats pour ordonner leurs expériences, y compris celle de l'extrême violence du combat. Prenons un exemple. En 1916, l'historien Louis Madelin est affecté en lieutenant à la 2e armée au secteur de Verdun. Là, il rédige une série de rapports de contrôle postal qui tracent les liens entre les événements militaires et le vécu des soldats. Le 21 juillet, la 71e division descend de Verdun après 2 semaines passées près du fort de Vaux, où elle a subi, je cite, « de sévères bombardements et de violentes attaques ». Madelin contrôle la correspondance et trouve une lassitude physique et morale inquiétante. Les soldats avaient survécu avec 3 litres d'eau chacun et quelques boîtes de viande, du singe, en argot de poilu. En plus d'une fatigue extrême, beaucoup se plaignaient de cerveaux ébranlés par le bombardement et de maux provoqués par les gaz asphyxiants. Verdun est devenu littéralement un lieu d'horreur, résume Madelin. Il y a à son endroit une sorte de phobie dans la troupe. Enfer, fournaise, calvaire. On l'a surnommé place de la mort. On peut appeler Verdun un gouffre d'hommes, écrit un homme. Et un autre d'ajouter, tout de même, nous voilà sortis de cette boucherie. Et un autre, la nuit du 19 au 20 juillet, eh bien, c'est le plus beau jour de ma vie, car nous avons été relevés de Verdun. Nous sommes sortis de l'enfer. En fait, Madelin observe des hommes désorientés qui souffrent d'un état de traumatisme. Mais ceci ne dure pas. 5 jours plus tard, un deuxième sondage effectué par Madelin en raison du bas moral de la division révèle les débuts d'une narration qui ordonne et rend compréhensible l'expérience récente, avec des valeurs implicites, virilité, courage, héroïsme, qui relient l'épisode au but de la guerre. Selon Madelin, je cite, « On commence avec le recul à considérer ces jours des preuves d'un œil moins tragique. Il est vrai que nous avons perdu du terrain et que nous l'avons repris. Nous avions même notre colonel qui était prisonnier et nous l'avons dégagé. » écrit un soldat, tandis qu'un lieutenant refuse que sa femme le voie en héros, remarquant « Tous mes hommes ont fait leur devoir, et beaucoup même ont fait davantage, et n'avaient pas besoin ni de mon exemple, ni de mes exhortations. Malgré la persistance d'un courant de désarroi dans les sentiments, Madeleine conclut que le cauchemar qui opprimait encore les esprits il y a 5 jours s'estompe. Il reste une fierté encore accompagnée d'honneur. De manière plus générale, les narrations épistolaires ou autres permettent aux soldats de négocier l'expérience de la guerre en tenant compte, certes, de leurs interlocuteurs. Par exemple, les pertes. Les soldats donnent souvent à leurs correspondants une estimation du nombre de soldats français perdus dans une action, parfois avec une glose pessimiste, mais parfois avec une surestimation des pertes ennemies, comme s'ils avaient intériorisé la guerre d'usure, ou la prépondérance de la défensive. Les soldats sont capables de manifester une satisfaction qui tourne parfois en exultation par rapport à l'anéantissement d'une attaque ennemie, sans évoquer les implications pour eux du cas réciproque, ou les fausses rumeurs de victoires mirifiques ou de la famine chez l'ennemi, rumeurs qui portent de l'espoir. On cherche surtout à donner aux souffrances une justification en termes d'utilité militaire, sinon de valeur plus élevée. Nous retrouvons presque tous ces éléments dans une lettre écrite à sa fiancée par André Kahn, jeune avocat et brancardier, qui fait l'expérience d'une contre-attaque ennemie lors de l'offensive dans l'Artois en mai 1915. Je cite. Une attaque boche. Ils ont été bien reçus. Leurs cadavres sont amoncelés devant nos lignes. Ils avançaient en colonne par quatre. Les canons de 75 et nos mitrailleuses en ont fait de la bouillie. Hélas, ils ont bombardé intensément nos tranchées. Toute la nuit, nous avons pansé nos braves poilus. Des officiers sont tués, parmi eux le capitaine Dunant, à demi écrasé par une marmite. Il avait été blessé 2 fois, décoré de la Légion d'honneur. Il est mort bêtement, dans un trou, après 6 mois de privation et de souffrance. Mais ne songeons qu'à une chose. Des milliers de Boches, solides, dispos, enthousiastes, ont été arrêtés, fauchés, par des hommes peu nombreux, certes, mais affermis par le désir de la victoire et la haine de l'ennemi. Fin de citation. Kahn se réjouit de la puissance du feu français qui massacre l'ennemi et réaffirme le but primordial du conflit d'expulser les Allemands du pays. Pourtant, l'artillerie allemande pulvérise non seulement les positions françaises, mais l'héroïsme conventionnel avec la mort du capitaine Dunant. Et en prenant l'efficacité de la résistance française, Kahn ne peut pas imaginer l'impact d'un acharnement pareil chez l'ennemi lors de la reprise de l'offensive française sans subvertir sa propre idée de la guerre. Ce qui est chose faite 2 semaines plus tard, quand le régiment prend enfin son objectif au prix de lourdes pertes. « J'ai soif de victoire éclatante », déclare-t-il. « Il me faut une avance d'au moins 4 kilomètres pour que je crie victoire. La prise d'une pauvre petite tranchée m'impatiente, c'est idiot. » Cet espace à la fois expérientiel et linguistique entre l'imaginaire et la réalité se remplit d'émotions et de valeurs qui déterminent en grande partie la manière dans laquelle on la vit et la communique à d'autres. Ferveur religieuse et politique, patriotisme, fidélité aux camarades, haine de l'ennemi ou indifférence envers celui-ci, esprit de révolte ou simple désir de survivre, tous ces comportements qui, eux aussi, ont fait l'objet d'études importantes, s'expriment dans les récits. Mais, en ce qui concerne le caractère inéluctable de la violence de guerre, l'essentiel se joue sur la capacité des langages qui en résultent à donner un sens, une justification aux souffrances des soldats et à leur mort possible. Nous avons vu que la culture de guerre qui naît pendant l'été de 1914 et qui en France prend un sens très concret avec l'invasion exerce une forte influence sur les soldats qui regardent le conflit comme une guerre de libération nationale. L'évolution de cette culture de guerre devient autrement complexe quand les soldats font l'expérience de la bataille industrialisée et elle tourne autour de la notion du sacrifice. Le sacrifice devient la valeur régulatrice du rapport entre les soldats et la nation en guerre. Une version héroïque, littéraire même, du sacrifice s'exprime dans les dizaines de volumes de correspondances de soldats, presque tous écrits par de jeunes officiers, bourgeois ou aristocrates, tués à la guerre, volumes qui sont publiés pendant le conflit. Ce qui surprend dans cette littérature patriotique, c'est l'omniprésence de la violence et de la déshumanisation due à la guerre, comme si cet aspect de la guerre ne faisait pas de doute pour le public ni pour les éditeurs. Mais il est contrebalancé par la volonté de vaincre. La tension entre les deux dimensions s'exprime, on ne peut pas plus clairement, dans un volume qui était le best-seller du genre. Il s'agit des lettres écrites à sa mère par un jeune peintre, Eugène-Emmanuel Lemercier, qui est tué en 1915. Il y a eu 23 réimpressions du livre à partir de 1916 et une traduction en anglais. Dans cet extrait, Lemercier raconte une attaque. Nos pertes sont effroyables, celles de l'ennemi pire encore. Tu ne peux savoir, ma mère aimée, ce que l'homme peut faire contre l'homme. Voici 5 jours que mes souliers sont gras de cervelle humaine, que j'écrase des thorax, que je rencontre des entrailles. Les hommes mangent le peu qu'ils ont à côté à des cadavres. Le régiment a été héroïque, nous n'avons plus d'officiers. Tous sont morts en braves. Enfin, après 5 jours d'horreur qui nous ont coûté 1200 victimes, nous avons été retirés de ce lieu d'abomination. Cette tension entre l'horreur et l'héroïsme, entre la violence de la bataille et la volonté de vaincre, est résolue dans la dernière lettre que Lemercier écrit à la veille de sa mort, où il anticipe et accepte sa propre disparition. « Chère mère aimée, nous voici sur l'extrême position d'attente. Je t'envoie tout mon amour. Quoi qu'il arrive, la vie aura eu de la beauté. » Sur des registres moins héroïques, le sacrifice trouve une place centrale dans le langage des soldats. Nous avons entendu celui qui propose de défendre Verdun jusqu'au dernier homme. Avec un fatalisme plus traditionnel, un métayer des Landes, Germain Cusack, et on décrit à sa femme les fosses communes des champs de bataille. Je cite, « Parfois, il y a plus de 50 morts ensevelis dans un trou avec une croix. » Conclut, « Il ne faut pas que cela vous émotionne. Il faut se résigner à tout. » Et un caporal du 74e régiment d'infanterie décrire « En ce qui me concerne, je me suis décidé d'aller jusqu'au bout, faisant de grand cœur le sacrifice de ma vie. » Un contrôleur rapporte pour l'ensemble de la 7e armée en avril 1916 que malgré les pertes lourdes et, je cite, « bien que les survivants eussent vécu dans un véritable enfer, ils avaient conscience que les sacrifices n'avaient pas été en vain. » Cependant, le discours du sacrifice utile était menacé dès le début par la violence de la guerre industrialisée et par l'impossibilité de réussir l'offensive libératrice, ce qui soulevait le lexique du désespoir que nous avons vu, ainsi que le spectre du sacrifice inutile. Madeleine note la ténacité de ce langage, toujours minoritaire au moment de Verdun, mais peut-être plus fort qu'il ne l'apparaissait à cause de l'aspect sensoriel du contrôle postal. « Ah oui !» écrit un soldat. « Verdun, c'est le tombeau de l'armée française. Dire qu'il faudra tous être sacrifiés. » Et on pourrait considérer la crise du moral qui transperce l'armée française au printemps de 1917 et les mutineries qu'elle provoque, lesquelles impliquent 40 000 hommes, comme le moment où la foi dans l'avenir et le sacrifice assumé chavirent. Bien sûr, les mutineries eurent de causes multiples, même si la première, comme l'a montré dans son ouvrage classique Guy Petroncini, fut un geste de refus de la part des hommes qui eurent participé à la désastreuse offensive lancée par le général Nivelle en avril 1917 sur le chemin des Dames. Certes, la résolution de la crise avait une dimension politique dans la mesure où il s'agissait d'une renégociation de la discipline par des hommes conscients de leur statut de soldats citoyens et sur une base qui excluait des attaques pareilles à l'avenir. Pétain, le successeur de Nivelle, sous de cette résolution, après une répression judiciaire restreinte mais exemplaire, par de nouvelles tactiques qui respectent cette exigence. Ce qui provoque les actes de désobéissance chez les soldats, qui se trouvent à l'arrière, dans les cantonnements et avec le temps de se raconter la guerre, est la mémoire de l'attaque échouée sur le chemin des Dames et la rumeur d'un renouvellement de l'offensive. Leur cadre temporel en est bousculé. La confiance dans les paroles des généraux et la foi des hommes dans l'utilité de leur propre sacrifice ne se maintiennent plus. Avec l'écroulement des narrations établies, d'autres langages, d'autres termes menacent de redéfinir leur expérience de la guerre. Les accusations du pacifisme du côté du haut commandement et les paroles révolutionnaires ou antimilitaristes chez les révoltés sont les symptômes du désarroi plutôt que des programmes arrêtés. Mais la culture de guerre, telle qu'elle avait fonctionné auprès des soldats, se trouvait profondément compromise. C'est un point qu'il faudrait souligner. Non seulement les cultures de guerre s'élaboraient au pluriel et en termes du vécu des soldats, autant qu'en termes de représentation symbolique de la guerre dans la presse et ailleurs, mais les mutineries dans l'armée et la crise du moral chez la population civile à laquelle elles furent étroitement liées marquent les limites de l'investissement dans la guerre. Du coup, on constate un renversement de l'équilibre entre langage officiel et narration des soldats. Lors de l'offensive Nivelle, la presse devient progressivement muette, les bonnes nouvelles manquant, les mauvaises nouvelles étant censurées. Les soldats, par contre, continuent à narrer leurs expériences de la bataille sur un ton de désespoir qui tourne par la suite à la contestation. Les valeurs sur lesquelles reposait la notion du sacrifice utile, telles que la justice, l'égalité devant le risque de la mort, la solidarité du pays avec ses soldats, sont remises en question. Et un sentiment de sacrifice inutile et donc de victimisation répand une volonté de reprise en main de leur propre sort par les soldats, volonté qui touche de près ou de loin une partie importante de l'armée. Fin juin 1917, le contrôle postal conclut que, et je cite, « La mentalité des poilus devient celle d'une corporation. Ils se préoccupent des lois qui régissent le recrutement, de la paix, de l'organisation du commandement, des garanties que leur accorde l'État. Les soldats se persuadent de plus qu'il leur appartient à eux-mêmes, collectivement, de régler leur sort et au besoin d'imposer leur volonté au front comme les ouvriers l'imposent à l'intérieur par la grève. » Fin de citation. Mais j'ai dit bien que la crise marque les limites et non pas la fin de l'investissement par les soldats dans la guerre. La résolution de la crise passe par une adaptation à l'offensive qui équivaut à l'apprentissage dans la défensive dont l'armée française eut fait preuve en 1915. Une spécialisation de fonctions, une guerre de matériel et la mise en œuvre du commandement interallié améliorent petit à petit la conduite de l'offensive. Les combats quasi continuels de 1918 résultent en 17% du total de morts et de prisonniers français pour la guerre, bien moins que les pertes de 1914, 1915 ou 1916. Les autorités essaient de remobiliser les soldats comme les civils par un effort de propagande accru. À cela, avec la grande offensive allemande du printemps de 1918, s'ajoute la menace d'une invasion renouvelée. Tant bien que mal, le moral des soldats se refait avant que la victoire, à partir de l'été 1918, ne devienne tangible. En terminant, je voudrais évoquer un troisième cadre d'analyse de l'expérience combattante, la construction d'une mémoire distanciée une fois le conflit achevé. Or, il semble clair que le rapport entre expérience et mémoire change dès que l'expérience en question et la temporalité dans laquelle elle se vit est close. Dorénavant, cette expérience devient à part entière un élément mémoriel d'un nouveau présent, d'une nouvelle expérience, dont les préoccupations diverses entrent en dialogue avec le passé. Bien sûr, ce rapport entre le présent et le passé devenu souvenir peut se vivre sous le signe de la continuité, d'une évolution à peine perceptible, comme c'est le cas dans la vie de tous les jours. Mais dans le cas d'une grande coupure, comme celle représentée pour les soldats de la Grande Guerre par la fin des hostilités et le retour au foyer, il est plus probable que cette transition soit marquée par une reconstruction active de l'expérience comme mémoire selon des procédés explicites. En effet, de multiples espaces se créent dans lesquels les soldats peuvent élaborer le souvenir de leurs propres expériences et des jugements de valeur sur sa signification. Monuments aux morts et commémoration du 11 novembre, réunions associatives d'anciens combattants ou pèlerinages sur les lieux du front figurent parmi les activités dédiées à ce processus. Au niveau de l'individu, une infinité de stratégies se présentent pour aborder ou esquiver le souvenir de la guerre, le deuil des camarades disparus, l'issue du conflit, car retourner en quelque sorte vainqueur, comme en France, n'est pas la même chose que de revenir vaincu, comme en Allemagne. Sans doute les plus assujettis au passé, au point où l'expérience révolue risque de les submerger, sont les grands blessés et les victimes de traumatismes psychiques. Mais la majorité bénéficie d'une marge de manœuvre plus large pour faire face à ce passé, pour en refaire le récit, pour témoigner. Cependant, les reconstructions narratives qui font partie de ce processus sont distinctes de l'expérience originelle, à la fois proche et distanciée. Proche parce que des aspects refoulés ou minimisés du vécu des soldats peuvent être déterrés et adressés, ou peuvent même arriver sans être sollicités. On pense par exemple aux soldats morts que cherche à exaucer Dorgelès en écrivant son roman « Les Croix de bois » publié en 1919. Mais distancié dans la mesure où le récit nettement rétrospectif s'inscrit dans un autre champ d'expérience, dans une autre structure temporelle. On y réfléchit en tant que civil, on l'écrit ou on le dit en connaissance des conséquences des événements décrits, y compris sa propre survie. Les choix de stratégie narrative sont différents de celles faites pendant la guerre parce que leur but est différent. Surtout, on en vient à des jugements de valeur qui sont faits à la lumière d'un épisode terminé, mais dont la signification évolue sans cesse. Ces questions sont soulevées en 1929-1930 par la publication de l'étude Témoin, écrite par l'ancien combattant et critique littéraire Jean Norton Crewe. Norton Crewe se donne pour ambition de statuer sur l'authenticité de l'ensemble de la littérature de guerre publiée par les soldats français, tant fictionnelle que non fictionnelle, et au nom d'une fidélité à leur expérience originelle. Mais si Norton Crewe débusque les faux témoignages en analysant ces textes et donne une exégèse révélatrice de ce qu'il considère authentique, il met les meilleurs soldats écrivains, selon ses propres critères, au service d'un procès de la guerre qu'il monte au nom d'un pacifisme humanitaire. Pris dans l'ensemble, Témoin est important surtout comme un exemple clé de la construction de la figure du témoin moral, celui qui juge rétrospectivement la vérité authentifiée d'une expérience au nom de valeurs éthiques ou politiques qu'il affiche dans le temps présent. L'expérience de guerre du soldat est devenue la mémoire dans une autre expérience, celle de l'ancien combattant, qu'il a reconstruit et la juge rétrospectivement. Il ne s'agit pas d'une vision de la guerre plus vraie ou moins vraie que celle entretenue lors du conflit, mais seulement différente. On se rappelle les conditions matérielles, les horreurs, les camarades, peut-être même des choses qui avaient été indicibles à l'époque. Mais est-ce que l'on en refoule d'autres, par exemple le fait d'avoir tué? Et se rappelle-t-on des sentiments, des passions avec lesquels on a vécu le conflit? Il n'y a pas de réponse simple. Les narrations rétrospectives qui structurent la mémoire de la guerre chez les vétérans s'élaborent de mille façons pendant l'entre-deux-guerres et depuis. Madame la Présidente, chers collègues, j'ai remarqué que les soldats de la Grande Guerre sont un grand sujet de notre histoire contemporaine européenne, mais je n'ai parlé que des soldats français. En effet, il me semble urgent d'adopter une approche européenne à l'histoire de ce conflit, car, malgré son envergure mondiale, la guerre concernait surtout l'Europe. Par conséquent, elle constitue un épisode cardinal pour cette approche européenne à l'histoire de l'Europe qui, malgré les aléas de la construction d'une Europe politique, s'impose plus que jamais comme une tâche intellectuelle de la première importance. La guerre fut commune aux différents pays belligérants. On y apportait des réponses par un processus interactif en apprenant de l'ennemi comme des alliés. Toutefois, plus on s'approche de l'histoire de l'expérience, plus les spécificités nationales semblent peser, ceci à son tour ayant une certaine actualité. Nous avons vu que les soldats français ont vécu la guerre selon une temporalité particulière et au nom de perceptions, de valeurs et de circonstances, par exemple l'invasion du territoire national, qui n'était pas forcément pareil dans d'autres pays. Du moins, c'est ce qu'il faudrait établir. Le chemin de cette histoire européenne passe donc par une histoire comparée des cadres de l'expérience nationale, tels que ceux dont j'ai essayé de suggérer ce soir la pertinence pour le cas français. J'aime croire que c'est un projet que Marc Bloch, soldat de la Grande Guerre et comparatiste résolu, aurait approuvé. Je vous remercie de votre attention.